Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Qu'est-ce que je vous propose pour cette nouvelle émission de Racontez-nous votre Montpellier ? De l'inattendu. Dans notre société, la mécanique de la concurrence tient le plus souvent le haut du pavé. Le choix de l'ouverture et l'esprit de coopération prennent place rarement. Mais c'est aujourd'hui le cas. En effet, au micro de Divergence FM, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur de Radio Clapas, Bruce Torrent. Le compagnonnage s'est concrétisé en 2018, quand Radio Clapas et Divergence FM ont créé, avec 6 autres radios, dont Radio Campus, également Montpelliéraine, le collectif des radios libres d'Occitanie, CRLO. Bruce Torrent, après une période de tempête pour des raisons financières, vous avez pris la tête de l'équipe de Radio Clapas en 2013, 10 ans ou presque après, et près de 45 ans après la création de Radio Clapas, Radio Clapas reste-t-elle fringante ? Vous allez nous le dire. Mais d'abord, comme vous le savez, c'est la formule de l'émission, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux qui figurent sur les cartes postales ou pas que vous aimez particulièrement dans notre ville ?
Tout d'abord, bonjour Alain, merci de cette invitation. Bonjour aux auditeurs de Divergence FM, radio que j'aime particulièrement, puisque je suis moi aussi auditeur de Divergence FM. Alors Montpellier, parler de Montpellier, moi je suis un Biterrois qui a grandi dans une cité minière de l'Aveyron et qui est arrivé à Montpellier en 1977.
Aux études ?
Alors en 77 non, parce que j'avais que 7 ans, mais par mutation, puisque mon père avait demandé la mutation sur Montpellier pour se rapprocher de sa famille à Béziers. Et je suis arrivé en 77 avec un premier souvenir très fort. Je me souviens, donc je suis arrivé au quartier de Mazerevon.
Oui.
Et la première balade que j'ai faite avec mon père, on s'est dirigé vers la place Saint-Denis. On a vu un grand et gros monsieur sur une plateforme, sur un camion plateau, avec des baffles et un micro, en train d'haranguer la foule, de parler. Et j'avais été impressionné.
Il s'est prénommé Georges, peut-être.
C'était Georges Fraîche. Ça a été mon premier contact avec Georges Fraîche. J'ai été très impressionné. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne savais même pas ce que c'était une élection municipale. C'est mon premier souvenir à Montpellier, où j'ai grandi donc, au quartier de Mazerevon, où je traînais du côté de la cité Le Maçon. Tout ça, c'était mon coin. Et puis après, en grandissant, j'ai habité à Figueroles, j'ai habité à Rue La Canale, juste à côté de la radio. J'ai passé du temps, une grande partie de ma jeunesse, de mon adolescence et puis aussi les premières années après la fac à Montpellier, où j'ai des souvenirs extraordinaires avec une ville que je considère, j'ai toujours considéré comme un grand village.
Même maintenant, alors que la ville a beaucoup grandi,
oui,
et ça a muté en population, sur le plan urbanistique également. Là, vous n'êtes pas de ces Montpelliérains qui se sentent un peu en décalage avec la croissance de la ville ?
Non, parce que j'aime la façon dont cette ville a évolué. J'aime son patrimoine, même le patrimoine récent. Je passais l'autre jour près de la Pompignane et j'ai vu cet arbre blanc immense sur un lieu que j'ai connu, parce que moi j'ai connu les puces de Richter, donc imaginez un peu comment ça a changé.
Mais avant qu'elles soient à la paillade. Oui.
Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que au niveau de l'architecture, on fait peu d'erreurs à Montpellier. J'aime beaucoup comment cette ville a évolué. Alors après, oui, c'est vrai que c'est devenu un petit peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai mis mon GPS pour venir rue La Canale ce matin, alors que c'est quand même un endroit où j'ai vécu 10 ans. C'est quand même assez fou.
Mais oui, vous êtes arrivé avant l'heure, donc ça a fonctionné.
Oui, c'est ça. Et puis, j'aime comment cette ville a évolué. Je trouve qu'on y est bien. J'ai toujours des amis, moi, qui viennent de d'autres grandes villes, qui me disent « il n'y a pas de périph' chez vous ». C'est marrant, ça, il n'y a pas de périph' à Montpellier. Non, il n'y a pas de périph' à Montpellier. On rentre à Montpellier comme on rentre dans un village. Tous les matins, je rentre par Estanov, je prends la rue de la Croix-du-Capitaine, je suis dans un village, quoi. Alors, ça devient compliqué, certes, mais je continue à avoir beaucoup d'amour pour cette ville, malgré
alors,
tout.
Précisément, quand il y a des amis ou des parents qui sont de passage, qui viennent à Montpellier, qui ne connaissent pas ou peu la ville, que leur dites-vous, quoi ? Bon, vous ne faites pas le syndicat ou l'office de tourisme, mais comment leur parlez-vous de Montpellier ?
Alors, je fais un peu le guide, quand même, parce que moi, j'ai eu la chance de faire la visite complète des hôtels particuliers de la ville. Et effectivement, quand ils arrivent de très loin, parce que moi, ma belle famille est orléanaise, donc souvent, on leur fait visiter le centre historique, bien évidemment, la place de la Comédie, Jean Jaurès, on descend un petit peu la rue Saint-Guilhem, on leur montre un petit peu Candolle, la fac de médecine, Divergence, enfin, tous les lieux qui sont emblématiques dans le centre historique. Et ils sont assez fascinés de voir quand même ce mélange entre modernité et un peu, on va dire, une architecture un peu haussmannienne par moment. C'est très plaisant. Alors, ils trouvent ça très boisé. Ce qui me surprend un peu, mais effectivement, je connais une ville comme Orléans, par exemple, qui est très, très peu boisée. Donc, ils trouvent ça très boisé, très, très beau, très, très ensoleillé. En général, les gens tombent rapidement sous le charme de Montpellier, et je comprends pourquoi. Je ressens exactement la même chose qu'eux. C'est une ville qui est vraiment plaisante. On l'a tous traversé quand on avait 20 ans, pendant des heures, au centre-ville, la nuit, le jour. On y est bien, c'est assez facile, etc. Donc moi, je ne vois pas d'évolution vraiment négative, si ce n'est que, aujourd'hui, il faut quand même aimer beaucoup le vélo. Ça, c'est pas facile.
Bien. Donc, encouragement pour les auditeurs et auditrices qui pédalent dans les rues de Montpellier.
Voilà.
Alors, petite question charnière, on va bien sûr parler de Clapas, de Radio Clapas. Comment, à vos yeux, comment selon vous, Radio Clapas raconte Montpellier ? Quel est le regard que Radio Clapas porte sur cette ville ?
Radio Clapas, elle a ce principe de base, comme d'autres radios associatives à Montpellier, d'être une radio de proximité. La proximité, c'est notre ville, nos quartiers. Et donc, on a systématiquement dans nos programmes des émissions qui racontent les gens du quartier, le quartier. On a toujours cette envie importante de parler de notre ville et de la vie qui s'y déroule. Souvent, quand on met des projets en commun avec d'autres radios de Montpellier, vous les avez cités tout à l'heure, nos amis de Campus et de Divergence, on fait des portraits de quartier, on fait des portraits de la ville, on tend nos micros. Nous sommes l'oreille, en fait. Nous sommes les oreilles de Montpellier. Et là-dessus, on a systématiquement des programmes à Clapas, plus précisément sur le patrimoine, puisqu'on a une journaliste qui est spécialisée dans le patrimoine et qui fait depuis 12 ans maintenant, des émissions sur le patrimoine en partenariat avec la ville et la métropole sur le patrimoine montpelliérain. Donc, c'est cette vision qu'on donne, c'est-à-dire on donne la vision d'une ville riche patrimonialement et riche de ses habitants aussi.
Et de ses activités, bien sûr, dont on parlera. Alors, le slogan, comme on dit, ou la devise que Radio Clapas brandit, c'est « culture et citoyenneté ».
Oui.
De manière assez ancienne, me semble-t-il. Et cette affirmation, elle vous semble toujours juste. Elle n'est pas un peu limitative. Est-ce que, je dirais, la diversité des programmes se traduit-elle, je dirais, dans ces deux mots ? Et peut-être au-delà, quoi, comme vous venez de le dire, avec le renseignement, notamment dans les quartiers.
Elle est plus que jamais réelle et importante. Culture, parce que nous faisons partie des radios exigeantes sur la culture. C'est-à-dire que, on va se dire la vérité, quand on est sur nos fréquences, on ne balance pas de soupe. Il n'y a pas de soupe chez nous. Ça c'est clair. Donc sur la culture, on est très exigeant. On fait découvrir la culture locale, on fait découvrir les artistes locaux, on donne de la place à ces gens-là. Citoyenneté, bien évidemment. Nous avons cette particularité, cette médaille, comme j'aime à le dire, d'être la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse.
Nous sommes en effet.
Et à partir de là, la citoyenneté est notre cœur de métier. On se doit, on a cette exigence de faire de la citoyenneté de l'âge de 4 ans, 5 ans, en ce moment 3 ans, parce qu'on a un projet extraordinaire qu'on est en train de mettre en place, qui a déjà démarré, qui est extraordinaire, dont je pourrais vous parler si j'ai un peu de temps. Mais que ce soit de l'âge de 4, 5 ans jusqu'aux ados et aux jeunes adultes, on a des projets citoyens, où on explique la citoyenneté, les médias citoyens, la proximité citoyenne. Et ça, ça se développe de plus en plus. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé depuis un an et demi, deux ans d'éducation aux médias. D'un seul coup, tout le monde se retrouve à se dire « Mais si on faisait de l'éducation aux médias ?» On entend des radios comme Skyrock ou Énergie qui commencent à nous parler d'éducation aux médias. C'est vous dire comme ça devient important. Donc là, petit message en trois lettres, LOL. Mais nous, d'éducation aux médias, on en fait depuis toujours. Donc ces projets-là ne sont pas restrictifs du tout, ils sont très ouverts et ils se développent à vitesse grand V. Ce sont les projets de demain, sauf que pour des radios comme nous, ce sont déjà des projets d'hier qui perdurent.
Alors dans votre programmation, pas de soupe, vous l'avez dit, mais il y a probablement des petits plats.
Oui.
Quels sont les... on ne va pas dérouler toute la grille, mais quels sont ceux qui... à vos yeux, caractérise le mur à Docaplas, qui est un peu la Clapas Touch, si on pouvait dire.
Clapas Touch, c'est, je pense, des thématiques musicales qui sont traitées par de grands spécialistes. Je veux parler du jazz, je veux parler du blues, je veux parler du rock, où on a vraiment des personnes qui sont très compétentes dans ce domaine et qui font des émissions donc hyper spécialisées, on va dire. Et ça, l'auditeur est très friand de ça, parce qu'il arrive à recueillir des infos qu'il n'a pas, y compris de temps en temps, sur des magazines ou sur les radios généralistes. Ça, c'est la première marque. Blues, jazz, rock, on est en plein dedans.
Jazz notamment, parce qu'il y a une place donnée au jazz qui est
très importante.
Qui est très importante. Oui. Ça, c'est un choix délibéré, j'imagine.
Oui, absolument. C'est la naissance de la radio. Les gens qui ont fondé la radio ont fondé une radio jazz. Donc, on continue dans ce créneau. Nous sommes une radio jazz et nous allons rester une radio jazz. Après, bien évidemment, quand on a une liberté éditoriale comme la nôtre, on peut aller plus loin. Donc, il y a des musiques un peu plus, on va dire, entre guillemets, modernes, même si le jazz reste encore toujours moderne. Et puis, voilà, après, il y a de l'information, beaucoup d'informations. Il y a un magazine quotidien d'information locale sur des formats 10 minutes.
On va en parler.
Où on traite des sujets très précis qui sont en lien avec la ville. Et puis aussi, on a de l'information associative qui est très importante avec des associations qui ont le mérite... De traiter des sujets qu'on écarte un peu des antennes par moment quand il n'y a pas d'actualité. Nous, on les traite quand même.
D'accord. Alors, vous avez évoqué le suivi de l'actualité locale. Vous avez la capacité, ça demande du temps sur l'antenne et de la compétence. Comment vous la traitez, l'info locale, quelle est la ligne éditoriale spécifique, qui n'est pas celle d'autres médias ou d'autres radios type France Bleu.
Alors, on essaye d'être véritablement à l'écoute de la ville, mais pas de la ville qui est à la une de l'actualité systématiquement. C'est-à-dire que faire du mag d'info dans une radio associative, c'est pas systématiquement courir les confs de presse pour avoir toujours la petite phrase de La Fosse ou la petite phrase de Carole Delga. C'est d'être à l'écoute des gens qui font l'actualité de la ville. Ça peut être associatif, ça peut être culturel, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais on essaye d'aller chercher des événements un petit peu particuliers, des actions méritantes, une exposition, une pièce de théâtre un petit peu innovante, etc. On essaye d'être à l'écoute de ça pour proposer un petit peu le off. Parce que la ville, elle a un peu tendance, et c'est normal d'ailleurs, dans sa communication, à promouvoir les choses qui sont déjà existantes et déjà en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de passer 4 heures sur des grands festivals dont on sait que de toute façon, 6 mois avant, ils sont complets. Nous, on va aller essayer d'aller chercher le petit festival à Lodève, à Gignac, à Palavas, à la Grande Motte, où on sait qu'on sera sur des jauges de 400-500 personnes et qui ont ce mérite de faire de belles propositions. Donc, on va leur donner du temps d'antenne.
Donc, de la découverte, en définitive
Oui.
Ou du défraîchage.
Oui.
C'est ça. Donc, oui. De ne pas s'en tenir, je dirais, à l'agenda classique, voire l'agenda officiel, et de faire votre propre agenda. C'est un peu ça aussi.
C'est ça. Vous avez tout résumé, Alain. C'est exactement ça.
Oui, je suis très brillant, il faut dire. Donc c'est
normal. Je le constate.
Alors, autre chose. Alors, on a parlé du jazz. Il y a aussi cette initiative d'avoir lancé 4 web radios dans 4 genres musicaux différents. Hein. Le jazz, le rock, le groove et la chanson. Là aussi, racontez-nous un peu cette initiative, de quelle analyse des attentes des auditeurs ça résulte et comment ça se traduit dans l'offre Radio Clapas.
Alors, il y a 2 particularités. La première, c'est que c'est né pour les 40 ans de la radio, où on a proposé 14 événements assez importants. Et dans ces 14 événements, il y avait la création de 4 web radios non exhaustives, qui sont censées recueillir un petit peu, d'être la banque de données de tout ce qui peut se faire dans ces styles musicaux dans le Clapas. Ce sont les radios du Clapas. Le Clapas...
Donc c'est bien des artistes...
Locaux.
Locaux,
oui.
Bon, ça ne s'arrête pas aux frontières de la métropole, je suppose, mais on comprend, qui sont ainsi mis en avant comme pour constituer une espèce de patrimoine vivant, évolutif de l'offre, enfin de la création musicale.
C'est ça, absolument. L'idée, c'était ça, c'était de dire, voilà, Clapas, ça veut dire Montpellier. Là, je suis en ce moment à Divergence,
alors,
je suis dans le Clapas.
Rappelez au passage ce qu'est un Clapas pour les néo-montpelliérains.
Alors, c'est un tas de pierres. C'est un tas de pierres. Quand on a commencé à investir cette colline-là et à creuser, la première chose qu'on a trouvée, c'est des cailloux. Donc, on les a mis en tas pour pouvoir faire des cultures. Et puis, ces tas, on les appelait des clapasses, donc des tas de pierres. Et donc, ici, on est dans le clapasse. C'est le centre de Montpellier. Donc, clapasse, ça veut dire Montpellier. Souvent, on y dit, quand je me déplace un petit peu en France, on me dit, oh, clapasse, mais c'est une radio en langue occitane. Non, c'est le nom de Montpellier, clapasse, tout simplement. Donc, quand vous dites radio clapasse, vous dites, entre guillemets, un peu radio Montpellier.
Même si il y avait une veine occitane, voire occitaniste, au moins dans les premières années.
Absolument.
C'était quand même un des marqueurs de Radio Clapasse.
Absolument. Clapasse s'appelle Clapasse parce qu'à l'époque, il y avait, à la fin des années 70, un chanteur montpelliérain qui s'appelait Fulbert Camp, qui chantait une chanson qui s'appelait Lou Clapasse. Et le nom vient de là, en fait. C'est de cette chanson que les fondateurs ont choisi le nom. Mais donc, je ne me souviens plus de la question, mais en gros...
Non, question, c'était les web radios et voilà.
Non exhaustif. On fait un catalogue des années 50 à nos jours qui évolue puisqu'on rentre de la matière. Et si vous voulez écouter des artistes locaux dans ces catégories-là, quel qu'il soit, c'est ce que je dis non exhaustif, c'est-à-dire que bon, mais voilà, on ne cherche pas à juger de la qualité de ce qu'on diffuse, contrairement à la grille. Là, vous avez le catalogue complet des artistes du clapasse pendant 40 ans.
Qui s'enrichit donc au fur et à mesure.
Bien évidemment.
C'est ça.
On le remplit tous les mois, on rentre environ 30-40 artistes dans ces web radios.
D'accord. Alors, autre innovation ou particularité de Clapasse, les siestes sonores.
Alors, oui.
L'intitulé est alléchant. Oui. Comment ça se traduit ?
On avait envie de proposer des instants musicaux en off de la radio. Donc, on a créé des siestes sonores, c'est-à-dire qu'on a fait fabriquer 30 transats au floquet Radio Clapasse, qu'on amène dans
les
des
transats,
événements.
C'est branché, parce qu'il y en a au musée de Sète.
Oui, bien sûr.
Il y en a à l'Odève dans ses manifestations estivales. Mmh. Donc là, vous avez choisi cette manière d'assumer ce qu'on prête aux méridionaux d'être quand même des professionnels de la sieste.
Alors, c'est marrant parce que dans les lieux où souvent on installe nos siestes sonores, c'est souvent des touristes qui s'installent. Donc, c'est bien, tant mieux. Ils apprennent effectivement un moment important de notre vie qui est la sieste, que je juge très très important en tout cas. Et donc, on leur fournit des casques dans lesquels il y a un émetteur avec quatre couleurs différentes. Et dans ces couleurs-là, il y a quatre programmes musicaux différents. Mais ces programmes sont systématiquement adaptés à l'événement où l'on se trouve. Si vous êtes dans un festival, ce sont des styles musicaux qui sont en lien avec ce festival, voire en lien avec les artistes du festival. Mais dernièrement, on a fait une sieste sonore pas très loin de Toulouse, où il y avait à l'intérieur des émissions jeunesse qui étaient en rapport avec les personnes qui nous avaient commandé ces siestes sonores. Donc en fait, dans ces casques, qui sont des casques disco, il n'y a pas de fil, vous mettez ça, vous choisissez la couleur verte, vous savez que vous allez avoir tel programme, rouge, etc. Mmh. Vous adaptez systématiquement au lieu où vous vous trouvez le contenu de ces siestes.
Donc ça, c'est une diversification,
oui,
sur mesure,
oui,
liée à un événement,
oui,
ponctuel, et qui donc peut se développer. Donc vous les proposez ou on vous les demande?
Alors, voilà, on les proposait. Aujourd'hui, on a plus tendance à nous les demander.
D'accord. Donc vous programmez ces siestes sonores dans les mois qui viennent.
Absolument. En général, la grande période des siestes sonores va de mai à juillet.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Là, on en fait pas mal.
Très bien. Alors... Autre chose qui est importante, on le sait bien à Divergence FM, c'est la relation avec les auditeurs. Comment vous l'organisez? Comment vous la passez? Comment elle se vivifie?
Avant la crise sanitaire, on crée énormément d'événements à l'extérieur de la radio. Et notamment le fait de sortir les émissions. C'est-à-dire qu'on prenait une émission et puis on la faisait dans un cadre qui lui correspondait à l'extérieur. Par exemple, l'émission de rock, Les Dieux du Rock. On la faisait au Rockstore, où les groupes, au lieu d'être interviewés à la radio, étaient interviewés dans le Rockstore, au milieu d'un concert que eux prodiguaient. Voilà. C'est-à-dire que les artistes jouaient, et puis à la mi-temps, ils venaient en gros parler au micro, etc. Donc on faisait ça à l'extérieur.
Avec, je dirais, l'ambiance, le climat, que les conditions permettaient.
Quoi. Voilà. Donc ça, c'était avant la crise sanitaire. La crise sanitaire nous a mis une bonne gifle sur ces projets-là. Maintenant, on va essayer de réinstaurer ça sur des événements plus ponctuels et plus ciblés, notamment découverte d'un album, découverte d'un artiste, etc. Mais toujours dans des salles ou dans des lieux.
D'accord.
Ça, c'est une façon de se mettre en relation directe avec l'auditeur. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites la radio, l'auditeur est à côté de vous. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas mal.
Et ça, voilà, parce qu'on dit souvent, mais bon, c'est un sujet qu'on peut aborder d'ailleurs, que la radio, c'est en tout cas moi ce que j'essaie de faire dans mes premiers pas dans ce média, créer une proximité, voire une intimité avec l'auditeur, que les autres médias, Bon, la presse écrite, la télé ou le web ne permettent pas. Est-ce que c'est pour aller plus loin dans cette veine de sensations particulières que le son induit?
J'emploie une formule négative pour dire quelque chose de positif. On est condamné à être en relation proche avec l'auditeur.
Sauf à vous renier vous-même par rapport à ce que vous avez dit de l'ambition historique et perpétuée de Clapaz.
Le principe même, c'est de faire tout ça pour eux. Voilà. J'ai tendance à rappeler aux animateurs de la radio que la radio n'est pas une chambre d'égo, mais qu'on s'adresse à un auditeur. Donc avant de se faire plaisir soi-même, il faut essayer de faire plaisir à l'auditeur. Donc la radio et ses animateurs ont pour mission d'être le plus proche possible de l'attente de ses auditeurs, peu importe son nombre.
Donc, pas chambre d'égo, mais pour faire jeu de mots, chambre d'écho. Mmh. Et parmi les évolutions que la radio a connues, bon, ici même, à Divergence et ailleurs, c'est le développement des podcasts. Comment vous l'analysez? Est-ce que, pour le coup, c'est la confirmation de nouvelles manières, des manières différentes d'écouter la radio?
Absolument. Moi, je suis un peu de la vieille école, hein, donc moi, j'ai démarré en Agra. Donc, quand on me parle de podcast, au départ, je me dis...
En Agra, on va expliquer que c'est un magnétophone
à bande.
Professionnel à bande, oui. Que les reporters trimbalaient sur
c'est
leur,
ça,
sur
c'est
leur
très
dos,
lourd.
Qui pesait, je pense, 5 ou 6 kilos, au moins.
Voilà, donc le podcast, au départ, quand j'en parle avec mes camarades de radio, ils me disent, mais nous, on a des podcasts, alors ça veut dire que ça fait 30 ans qu'on fait du podcast, puis que c'est de la rediffusion. Alors, pas tout à fait. Maintenant, moi, pour avoir participé à de nombreux radio-tours et d'avoir discuté avec des gens, c'est quand même un travail plus dirigé, moins dirigé vers l'antenne et plus dirigé vers l'écoute personnalisée pour l'auditeur avec un cahier des charges un peu différent. Donc, effectivement, moi, je comprends aujourd'hui que le podcast, c'est quelque chose de très intéressant pour l'auditeur parce que c'est du plus. C'est-à-dire qu'on va écouter une radio, on a ses habitudes, on vient écouter une émission, puis on change parce qu'à 17h, il y a une autre radio avec une autre émission, etc. Mais à la maison, au travail, des fois avec le casque, etc., on a envie d'aller chercher de l'info sur un sujet particulier. Et si on tombe sur un podcast, sur quelque chose d'historique ou un truc d'actualité un peu mieux traité, etc., on va avoir cette espèce de play à portée de main qui va permettre d'écouter, de réécouter, de réentendre des choses qu'on aura zappées avec l'actualité de la radio. C'est-à-dire que la radio, elle passe, elle tourne 24-24. Alors, OK, il y a des rediffusions, mais ces rediffusions évoluent, ça va vite, etc. Le podcast, c'est quelque chose qui est, on va dire, accessible dans la durée et beaucoup plus précis sur le sujet qui est traité. C'est pas mal. Je comprends
que
ça plaise.
Il y a les rendez-vous sur la grille des programmes au fil de la semaine. Oui. Je choisis d'écouter telle émission ou je tombe par hasard sur telle émission dans ma voiture. Ouais, bref. Et puis, je choisis.
On s'arrête. Le podcast, on s'arrête. On se stoppe, on s'arrête. On se met en condition d'écoute. On ne l'est pas toujours. Moi, dans ma voiture, je tombe sur des émissions très intéressantes. Mais bon, je ne peux pas l'écouter parce que je descends. C'est l'heure d'aller chercher les petits à l'école. Donc, je coupe tout, la radio, tout. Je sors, c'est fini. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « je ne peux pas entendre à la fin ». Ça me pose un problème.
C'est un peu frustrant, oui.
Bon, je peux aller chercher une rediffusion, je vais faire une recherche, etc. Les sites de podcast, parce qu'aujourd'hui, on parle de sites de podcast qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, les grandes radios ont leur site à part. C'est vraiment d'aller chercher, comme un replay à la télévision, mais là, on va chercher un replay à la radio, un sujet particulier. C'est-à-dire, on tape une thématique dans un moteur de recherche. J'en sais rien. Par exemple, l'affaire, une affaire policière, par exemple. Tac, on va le trouver. Et on va s'installer comme on s'installe à table pour prendre le temps de manger. Là, on va prendre le temps d'écouter son podcast et d'être... Ça va permettre une attention différente, une attention plus forte, je pense, le podcast que la radio.
D'accord. Et pour le coup, ça peut conduire, comme certains radios le font, à des feuilletons, quoi, avec des podcasts à épisodes.
Oui.
Qui élargissent, me semble-t-il, la palette d'expression radiophonique.
Et on est dans un format différent. Nous, on vient de faire avec le CRLO 12 podcasts qui ont été primés, qui ont reçu donc ce qu'on appelle un Audio Award, ce qui est une distinction quand même très élevée, pour le travail sur 12 documentaires très précis, avec un cahier des charges très précis, et qui sont 12 épisodes, alors qu'ils ne se suivent pas, mais qui sont 12 épisodes très précis sur une thématique très précise. Et ça, les gens adorent ça.
Alors, cette diversification de la radio que vous décrivez, que vous confirmez, est-ce que elle a une influence sur la manière dont vous pensez vos futurs programmes. Donc, est-ce que ça vous conduit à repenser, en partie en tout cas, les programmes, les thématiques, la manière dont elles sont traitées, les rythmes, les durées, pour prendre en compte complètement ce phénomène-là de diversification et d'extension du domaine de la radio?
Alors, par obligation d'une part, et par envie d'autre part. C'est-à-dire que les radios associatives ont la chance, souvent, d'avoir des gens compétents qui les dirigent et qui
vont... c'est le cas Divergence, j'en témoigne.
C'est le cas Divergence, vous avez un excellent chef d'antenne, mais voilà, justement, qui se réinvente. C'est-à-dire que moi, je parle avec d'autres directeurs ou chefs d'antenne de radio qui me disent toujours « Ah, cette année, on va faire ça, on va changer ça, j'ai ça qui arrive, ça, c'est nouveau, j'ai un nouveau partenariat, j'ai changé mes programmes du week-end. » Ça se réinvente perpétuellement, mais parce qu'on a la liberté de faire ça. Sur une radio commerciale, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que les radios associatives, moi maintenant qui est passé le cap du entre guillemets, je ne veux pas être grossier, mais du vieux con, hein. Moi je suis devenu un vieux con en radio, ça y est, j'ai passé cette étape. Il y a toujours ce sentiment de se dire, n'oubliez jamais qu'on a une liberté énorme sur les radios associatives, une liberté éditoriale qui nous permet de nous réinventer quand on veut.
De manière souple.
Quand on veut. C'est-à-dire que si Divergence décide que tous les samedis matins, pendant 3 heures, il y aura de l'opéra, qui l'en empêche? Vous n'avez pas un directeur commercial, comme chez Fun ou Energy, qui va vous dire « Ah, attends, c'est pas le public ciblé, c'est pas possible, la ménagère de moins de 50 ans, l'espace pour Coca-Cola. » On s'en fout de ça, nous, on n'est pas là-dedans. Donc on fait ce qu'on veut sur nos grilles. Si on est cohérent et qu'on fait ce qu'on veut, ça veut dire qu'on se réinvente intelligemment. Et moi, je pense que c'est ce qui se passe. Je fais un petit clin d'œil parce que ça fait quelques années que j'écoute, que je me suis mis à écouter Campus. Ils se sont réinventés de A à Z. Voilà. Ils sont jeunes, ils ont la patate, ils ont su s'entourer, ils font du live, ils font de la scène, ils sont en train d'avoir une imprégnation auprès des artistes locaux, et notamment de la scène musicale moderne qui est assez impressionnante. Ils ont réinventé, et ils réinventent encore plus chaque année, leur grille. Mais ça a un résultat, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus écoutés et de plus en plus intéressants, et voilà. Ils savent utiliser ce média. Nous sommes des médias avec des particularités. Quand on sait utiliser ces particularités, ça fonctionne.
Alors, bon, les auditeurs et les auditrices ont perçu probablement ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous passionne dans la radio? Qu'est-ce qui vous donne envie le matin de foncer à la radio ou de réfléchir en route? Tiens, on pourrait faire ça. Il y a ce truc, c'était pas mal, mais on pourrait faire mieux. Voilà, quel est le moteur de votre intérêt pour la radio?
Moi, j'ai démarré la radio en 1992. J'ai la même idée quand je me lève le matin aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 30 ans après, la rencontre. Créer de la rencontre, voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'anime dans la radio, c'est de rencontrer des gens, peu importe leur statut, auditeur, partenaire, etc. Ce sont les rencontres qui font qu'on a toujours envie de continuer ce travail. Parce qu'on se dit que demain, ça sera différent. Demain, ça va changer. La vie de Divergence aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle sera totalement différente dans 3 ans. Je suis sûr que Divergence, dans 3 ans, sera une autre radio, avec d'autres programmes, une autre activité, d'autres lieux. C'est la seule chose qui nous tient, en fait. Si on ronronnait depuis 10 ans, on vendrait des sushis.
Alors, dernière question. Bruce Torrent, on arrive à la fin. Donnez aux auditeurs de Divergence FM, les fidèles auditeurs et auditrices, une ou deux raisons, ou deux ou trois raisons, de faire une escapade en tendant l'oreille du côté de Radio Clapas. Vous l'avez un peu dit, mais voilà, quel est le...
Alors, la comparaison avec Divergence, elle est un peu compliquée, parce qu'on est au niveau de la programmation musicale, on est quand même assez différent, et pourtant, on est assez jumeaux. C'est paradoxal. Si je m'adresse à un auditeur de Divergence, je vais lui dire, il te manque sûrement 2-3 trucs au niveau de la musique, au niveau de la spécialité musicale que tu pourras trouver sur Clapas. Il y a beaucoup de paroles d'enfants que tu pourras trouver sur Clapas, beaucoup d'intergénérations avec des enfants, des papis, des mamies qui se rencontrent, qui se parlent sur des sujets de société. Il y a ce côté sur Clapas qu'on ne trouvera pas uniquement. Alors, il y a plein de choses qu'on trouve sur Divergence qu'on ne trouve pas sur Clapas,
oui, bien
attention.
Sûr,
voilà. Non, mais il y a ce côté, on sort un peu plus de la ville. On sort un peu plus de la ville, on est plus, on a tendance à être ces dernières années très métropole, très Occitanie, etc. Et on va y trouver des témoignages et des programmes qui sont un petit peu en dehors de notre quotidien ronronnant.
Bien, merci, mon autorante. Vous avez activé ce que j'appelais au début en présentant l'esprit de découverte. Oui. Donc, découvrons Redo Clapas. Et à une prochaine fois.
Merci, Alain.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.